Chapitre 6. C'était enfin arrivé. Le message attendu était arrivé. Toute sa vie, lui semblait-il, il avait attendu que cela se produise. Il marchait dans le long couloir du ministère, et il était presque à l'endroit où Julia avait glissé la note dans sa main lorsqu'il s'était rendu compte qu'une personne, plus grande que lui, marchait juste derrière. La personne, encore inconnue, fit entendre une petite toux, manifestement un prélude à la prise de parole. Winston s'arrêta brusquement et se retourna. C'était O'Brien. Enfin, ils étaient face à face, et il semblait que son seul désir était de s'enfuir. Son cœur s'est arrêté violemment. Il aurait été incapable de parler. O'Brien, cependant, continuait à marcher du même pas, sa main un moment posée sur le bras de Winston d'un geste amical, de sorte que tous deux marchèrent côte à côte. Il se mit à parler avec la courtoisie grave et particulière qui le différenciait de la plupart des membres du parti intérieur. « J'espérais avoir l'occasion de vous parler, » a-t-il dit. « Je lisais un de vos articles de novlangue dans le Times l'autre jour. Vous vous intéressez à novlangue, je crois ?» Winston avait récupéré une partie de ses moyens. « À peine érudit, » disait-il, « je ne suis qu'un amateur. Ce n'est pas mon sujet, je n'ai jamais rien eu à voir avec la construction de la langue. » « Mais vous l'écrivez de façon très élégante, » a déclaré O'Brien. « Ce n'est pas seulement ma propre opinion. Je parlais récemment à un de vos amis, qui est certainement un expert. Son nom m'échappe pour le moment. » Une fois de plus, le cœur de Winston s'est mis à battre douloureusement. Il était inconcevable que ce soit autre chose qu'une référence à Sim. Mais Sim n'était pas seulement mort. Il a été aboli. Il était un non-être. Toute référence identifiable à Sim aurait été mortellement dangereuse. La remarque d'O'Brien devait certainement être comprise comme un signal, un mot de code. En partageant avec Winston un petit crime par la pensée, il avait fait de tous deux des complices. Ils avaient continué à se promener lentement dans le couloir, mais O'Brien s'arrêta. Avec cette curieuse, désarmante amitié qu'il s'arrangeait pour mettre dans son geste, il équilibra ses lunettes sur son nez. Puis il poursuivit. « Ce que j'avais vraiment l'intention de dire, c'est que dans votre article, j'ai remarqué que vous aviez utilisé deux mots qui sont devenus obsolètes. Mais ils ne sont devenus obsolètes que très récemment. Avez-vous vu la 10e édition du dictionnaire novlangue ?»«
Non, » déclara Winston. « Je ne pensais pas qu'il avait déjà été publié. Nous utilisons toujours la 9e au service des archives. »
« La 10e édition ne devrait pas paraître avant plusieurs mois, je crois. Mais quelques exemplaires préliminaires ont été diffusés. J'en ai moi-même un. Cela pourrait vous intéresser de le regarder, peut-être ?»«
Beaucoup, »
dit Winston en voyant immédiatement où O'Brien voulait en venir. Quelques-unes des nouvelles trouvailles sont très ingénieuses. La réduction du nombre de verbes, c'est cette partie qui vous plaira, je pense. Voyons. Vous l'enverrai-je par un messager ? Ah, mais j'oublie invariablement, je crois, toutes les choses de ce genre. Peut-être pourriez-vous passer à mon appartement, quand cela vous conviendra. Attendez, laissez-moi vous donner mon adresse. » Il se tenait devant un télécran. D'un geste désinvolte, O'Brien fouilla ses poches et en sortit un petit carnet couvert de cuir et un crayon à encre en or. Sous le télécran, dans une telle position que toute personne qui regardait à l'autre bout de l'instrument pouvait lire ce qu'il écrivait, il griffonna une adresse, déchira la page et la remit à Winston. « Je suis généralement à la maison le soir, » a-t-il déclaré. « Si ce n'est pas le cas, mon serviteur vous donnera le dictionnaire. » Il partit, laissant Winston tenir le bout de papier qu'il n'était pas nécessaire de cacher cette fois. Néanmoins, il mémorisa soigneusement ce qui était écrit dessus, et quelques heures plus tard,
il le fit tomber dans le trou de mémoire avec une masse d'autres journaux. Ils ne s'étaient parlé que 2 minutes, au maximum. L'épisode ne pouvait avoir qu'une signification. Il avait été conçu comme un moyen de faire connaître à Winston l'adresse d'O'Brien. C'était nécessaire car, sauf demande directe, il n'était jamais possible de découvrir où quelqu'un vivait. Il n'y avait pas d'annuaire, de n'importe quelle sorte. Si jamais vous vouliez me voir, c'est là que vous me trouveriez. C'est ce que lui avait dit O'Brien. Peut-être même y aurait-il un message caché quelque part dans le dictionnaire. Mais en tout cas, une chose est sûre. La conspiration dont il avait rêvé existait bel et bien, et il avait atteint les abords extérieurs. Il savait que tôt ou tard il obéirait à l'ordre d'O'Brien de se rendre chez lui. Peut-être demain. Peut-être après un long délai, il n'était pas certain. Ce qui se passait n'était que l'élaboration d'un processus qui a commencé il y a des années. La première étape était une pensée secrète et involontaire. La seconde était l'ouverture du journal. Il était passé des pensées aux mots et maintenant des mots aux actions. La dernière était quelque chose qui allait se produire au ministère de l'amour. Il l'avait accepté. La fin était contenue dans le commencement. Mais c'était effrayant, ou plus exactement, c'était comme un avant-goût de la mort, comme être un peu moins vivant. Même pendant qu'il parlait à O'Brien, alors que le sens des mots le pénétrait, il avait été secoué d'un frisson glacial. Il avait la sensation d'entrer dans l'humidité d'une tombe, et ce n'était pas beaucoup plus rassurant d'avoir toujours su que la tombe était là, et qu'elle l'attendait.